En esprit et en vérité 03, le culte est d'abord individuel. Il est toujours important de souligner la responsabilité individuelle de chaque disciple de Jésus-Christ. Cette remarque vaut tout particulièrement pour l'adoration qui est une expression de soumission et de service. Une étude du culte à travers l'Écriture montre que l'adoration met en jeu ma volonté, mes pensées, mes décisions, mes actions, mon attitude. Tout d'abord, l'accès à Dieu ne peut être qu'individuel. La collectivité chrétienne n'a pas à ma place accès à Dieu par le sang de Jésus-Christ. Et nul ne peut avoir accès à Dieu par le sang de Jésus au bénéfice de la collectivité chrétienne. Jésus souligne à maintes reprises l'importance de la foi et de l'engagement personnel, Jean 3h16, 3h36, 7h37-39. L'Église est composée de ceux qui ont accès à Dieu par l'œuvre médiatrice de Jésus. Puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Hébreux 10h21, 22, ce dixième chapitre d'Hébreux montre que la conséquence d'un plus grand privilège, l'accès à Dieu, c'est une plus grande responsabilité, veiller sur les autres, ne point abandonner l'assemblée. Mais si le privilège est d'abord individuel, il en va de même de la responsabilité. Les trois expressions de l'adoration, être prosterné, servir, craindre, ont leur origine dans le cœur de chacun et de chacune. 7. La prosternation est un acte individuel, l'acte de s'incliner devant l'Éternel tient, tout d'abord, à notre, 16, disposition d'esprit. Ainsi, les vrais adorateurs se prosternent en esprit devant le Père, Jean 4h24. Le chrétien doit donc chercher à être personnellement soumis à Dieu, faute de quoi il ne peut être l'adorateur que le Père recherche, Jean 4h23. Le vrai adorateur n'est donc pas, et ne peut pas être, quelqu'un qui se rebelle contre Dieu, qui conteste ses œuvres ou qui met en question sa volonté. Peut-on se moquer de Dieu? Confère Galates 6, 7. Peut-on se mettre à genoux devant Dieu dans une église, courber la tête devant les hommes et faire retentir des louanges, tout en lui offrant un cœur profondément rebelle? Le premier pas vers Dieu peut-il consister en autre chose qu'une entière soumission à ses commandements, ses desseins, sa volonté? Confère Psaume 34, 23, 51, 12, 19, Ésaïe 2, 9, Matthieu 5, 3, 23h12, Romains 8, 9, Jacques 4h10, 1 Pierre 3, 4, 5, 5, 5. Dans la soumission à Dieu, il faut inclure un refus de se glorifier, que ce soit ouvertement ou en pensée, par rapport aux frères en Christ, confère Galates 6, 3 à 5, Romains 10h16. 1 Corinthiens 12h24 ou 26. Celui qui se glorifie au-dessus de ses frères, comment peut-il prétendre qu'il se prosterne devant l'Éternel? 2. Le service est un acte individuel prosterné devant Dieu, c'est alors que nous sommes prêts à le servir. En effet, comme nous l'avons dit, ces deux aspects de l'adoration ne peuvent être dissociés, confère Luc 4, 8. Servir Dieu consiste en priorité, à ne plus mettre sa confiance en la chair, car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu un culte, service, par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance en la chair, Philippiens 3, 2, 3, l'allusion à la circoncision montre que Paul voit un contraste entre le culte sous l'Ancienne Alliance et le culte sous la Nouvelle Alliance. L'apôtre contraste dans son expérience personnelle le culte que rendait un juif avant sa conversion au Christ et le culte qu'il rend après sa conversion au Christ. Dans le contexte, il s'oppose surtout à ceux qui voulaient se glorifier de leurs attaches avec le judaïsme. Il regarde lui-même ces choses comme une perte à cause de Christ. Il rejette notamment une justice basée sur l'ancienne loi et rappelle que seul Christ mérite d'être glorifié. Et puisque Jésus seul doit être glorifié, 1, 17, culte authentique passe par une identification, une communion avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul a donc conscience du fait que le culte, service, qu'il rend à Dieu n'est de valeur qu'en fonction de sa foi personnelle en Jésus-Christ et non en vertu de ses attaches avec le judaïsme. C'est cette pensée qui fait de l'apôtre un chrétien qui court à la perfection, Philippiens 3h12-16. Paul est mort, et veut continuellement mourir, avec Christ, et c'est dans cet esprit qu'il sert Dieu, confère Galates 2h20, 21, 5h24, Romains 6, 2 à 11. L'apôtre sert Dieu par l'Esprit de Dieu. En effet, le Saint-Esprit est donné à tous dans la Nouvelle Alliance, Actes 2h38, 39. Ceux qui sont morts et ressuscités avec Christ ont reçu l'Esprit afin de vivre et de marcher selon l'Esprit, Romains 8, 1 à 17. Servir Dieu par l'Esprit de Dieu, c'est le servir en fonction de ce que dicte l'Esprit, confère Galates 5h 13 22. Et ce que dicte l'Esprit a pour but de nous amener à accomplir la justice prescrite par la loi, Romains 8, 4. Il est clair, en effet, que la loi est accomplie en nous lorsque règne dans notre vie l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi, Galates 5:19-24. L'Esprit est donc donné à l'enfant de Dieu pour l'amener à accomplir la justice de Dieu prescrite dans la loi, confère Galates 5:16-18, Éphésiens 4:30, 5:18-21. Rendre un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu ne peut consister à tomber dans la frénésie ou l'exaltation, contraire à la maîtrise de soi, fruit de l'Esprit. Le désordre est plutôt une œuvre de la chair, Galates 5:19. Un service, ou culte, par l'Esprit de Dieu consiste en ceci, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, ce qui sera de votre part un culte, service, raisonnable. Romains 12, 1, un culte, service, raisonnable, c'est un culte qui est conforme à la parole, tant logique en lettres et en. On ne retrouve l'adjectif logico qu'en 1 Pierre 2, 2 où son sens est évident, le lénon frelaté de la parole, to logicon de longala. Pour servir Dieu d'une manière qui lui soit agréable, je dois donc lui offrir mon corps. Et ce corps, sous la nouvelle alliance, est le temple du Saint-Esprit. Ce corps est un membre de Jésus-Christ, 1 Corinthiens 6:15-19. Ne dois-je pas prendre le plus grand soin du temple de Dieu, 18, d'une partie de Jésus-Christ? Puis-je impunément livrer mon corps, le temple de Dieu, un membre de Christ, à l'impudicité, à l'ivresse et à toutes sortes de mauvais traitements? Si nous voulons servir Dieu, nous devons donc commencer par apprendre à traiter nos corps avec respect. Le culte, ou service, à Dieu consiste aussi à le servir en nous acquittant du ministère particulier qui nous est dévolu, les tourgeaux. Ce peut être un ministère civil, Romains 13, 6, ou ayant un rapport avec l'Église, Romains 15:16, Actes 13, 2. Il y a aussi le service à Dieu de celui qui sert les hommes, et même de celui qui est esclave des hommes. Il s'acquitte de sa tâche non comme pour servir des hommes mais comme servant Dieu, Éphésiens 6, 5 à 7, Colossiens 3:22-25. Il en va de même pour les maîtres qui demeurent aussi des serviteurs de Dieu du fait qu'ils devront rendre compte à Dieu, Éphésiens 6, 9. 3. La crainte de Dieu est personnelle. Rendre un culte à Dieu consiste, de surcroît, à le vénérer, à l'honorer, à le respecter, à le craindre, treskea, eulabea, tusia, se baumer, se basomer. La crainte de l'Éternel est une disposition d'esprit et de cœur, l'Écriture nous avait dit donc qu'elle ne doit pas se réduire à une simple forme, 2 Timothée 3, 5. Qu'est-ce qui caractérise une crainte respectueuse de l'Éternel se situant au niveau de l'esprit et du cœur? Qu'est-ce qui fait que cette piété n'est pas uniquement une apparence ou encore une émotion, proie de tous les vents de doctrine, confère Éphésiens 4:14-15. Le meilleur exemple de crainte envers l'Éternel, de cette disposition respectueuse et humble envers la divinité, est celui de Jésus-Christ lui-même. Sa piété, nous est-il dit, consistait à apprendre l'obéissance, Hébreux 5, 7. Il y a aussi l'exemple de Noé qui saisit d'une pieuse crainte construisit une arche par la foi, Hébreux 11, 7. La piété est donc liée à la foi et à l'obéissance. Toute expression de piété, ou de culte, qui n'est pas le fruit de la foi et de l'obéissance n'est point acceptable à Dieu. Ainsi, par exemple, Ésaïe et Jésus rejettent la piété de ceux qui enseignent des doctrines qui ne sont que des préceptes d'hommes, Matthieu 15, 8, Ésaïe 29, 13. Une doctrine conforme à la piété est une doctrine qui souligne et provoque la crainte respectueuse de l'Éternel et l'obéissance à sa, 19, volonté, 1 Timothée 6, 3. Un culte acceptable doit donc être rendu avec piété et avec crainte, Hébreux midi 28. La primitive Église est ainsi décrite, elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur, et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Actes 9:31, les Corinthiens devaient se sanctifier par la crainte du Seigneur, puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en réalisant la sainteté dans la crainte de Dieu. 2 Corinthiens 7, 1, la crainte du Seigneur caractérise la véritable repentance, 2 Corinthiens 7:10, 11, la soumission mutuelle entre chrétiens est aussi un produit de la crainte de Dieu, soumettez-vous les uns les autres dans la crainte de Christ, Éphésiens 5:21, enfin, la crainte doit caractériser ceux qui ne sont que de passage sur cette terre et qui doivent mourir un jour, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, 1, Pierre 1:17, confère 2:18, 3, 2, 15, c'est le mot grec phobo qui est employé dans tous les passages cités au paragraphe précédent. L'apôtre Jean semble contredire ces exhortations lorsqu'il écrit ceci : « Voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment, et celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. » 1 Jean 4h10 et 19. Dans ce passage, Jean montre l'idéal vers lequel s'achemine le chrétien, la perfection dans l'amour, confère Matthieu 5h47, 48. Celui qui est parfait, ou complet, accompli, dans l'amour a dépassé le stade de la simple crainte. La crainte est bannie lorsque quelque chose de plus grand, de plus parfait et de plus puissant est venu la remplacer, cette chose c'est l'amour. Nous touchons ici à un aspect de la doctrine chrétienne qui est assez souvent méconnu. Il y a dans la doctrine de Christ ce qui est élémentaire et ce qui est parfait, Hébreux 6, 1. L'exhortation du Nouveau Testament, pris dans sa totalité, c'est que nous recherchions, 20, à remplacer ce qui est élémentaire par ce qui est parfait, ou accompli. Il y a donc un aspect progressif à la vie chrétienne impliquant un aspect progressif à la doctrine chrétienne. Une fois le fondement posé, nous devons rechercher l'édification. Une fois semé, la plante doit être arrosée, puis croître, 1 Corinthiens 3, 4 à 9. Bien entendu, une question essentielle demeure, qu'est-ce qui est parfait aux yeux de Dieu ? Nous n'avons pas besoin d'inventer la réponse à cette question car celle-ci nous est donnée par les apôtres dans le Nouveau Testament. La perfection revient toujours à l'accomplissement du commandement qui englobe tous les autres, de la loi royale, l'amour. La perfection, c'est aimer Dieu de toute son âme, de tout son esprit et de toute sa force et d'aimer son prochain comme soi-même, c'était vrai sous l'ancienne alliance et c'est encore vrai sous la nouvelle, Matthieu 22h37, Marc 12h30, 1 Corinthiens 8, 3, Romains 13h10. L'amour ne consiste pas en une plus grande connaissance mais, comme le stipule le commandement de la Torah, en une disposition de l'être tout entier à l'égard de son Dieu et à l'égard de son prochain. Celui qui aime ainsi est connu de Dieu, si quelqu'un croit connaître quelque chose, il n'a pas encore connu comme il faut connaître. Mais si quelqu'un aime Dieu, celui-là est connu de lui. 1 Corinthiens 8, 2, 3, la perfection ne consiste pas non plus à posséder des dons surnaturels, qu'on appelle à tort, d'une manière restrictive, des dons spirituels. Un véritable renouveau charismatique consiste, aux yeux de l'Éternel, à manifester le charisme, c'est-à-dire le don, parfait de l'amour qui seul peut édifier parfaitement et spirituellement. À l'instar de ceux qui se glorifient de leur connaissance et s'imaginent, ainsi, avoir atteint la perfection, ceux qui se glorifient de leurs nombreux dons spirituels, n'ont pas encore connu comme il faut connaître. Ceci est clair dans le 13e chapitre de 1 Corinthiens. Lisez 1 Corinthiens 13, 1 à 7 et vous comprendrez pourquoi l'amour ne passera jamais, alors, par exemple, que les prophéties et les langues sont destinées à passer. Point. Ces 7 versets ne nous donnent-ils pas une description parfaite de l'attitude du vrai disciple de Jésus ? Lisez encore et vous comprendrez pourquoi Paul déclare que les prophéties seront abolies, que les langues cesseront, que la connaissance sera abolie. Avec l'amour, écrit Jean, la crainte elle-même n'a plus de raison d'être. Il en va de même des prophéties, des langues, de 21, la connaissance. Paul nous dit qu'ils seront abolis, grec katarjo, le verbe est au futur passif indiquant que ces dons cesseront sous l'effet d'un acte extérieur venant de Dieu lui-même, de même, le verbe cesser, pao, employé pour les langues n'est pas à l'actif mais au moyen, indiquant une action subie. L'apôtre Paul anticipe sur l'avenir, le rend encore plus proche, en disant, maintenant ces trois choses demeurent, et non demeureront, la foi, l'espérance, l'amour. 1 Corinthiens 13h13. C'est maintenant qu'il faut tendre à ce qui est parfait. C'est maintenant que l'Église doit s'édifier et rechercher ce qui est parfait. Mais nous devons revenir au sujet qui nous préoccupe, la crainte du Seigneur qui est un aspect de l'adoration. Le Nouveau Testament nous enseigne que pour les femmes chrétiennes la piété envers Dieu, ou crainte, consiste à se soumettre à leur mari. Le mot employé par Paul, tosebea, ne se trouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Il indique que c'est d'abord envers Dieu lui-même que la femme doit être soumise. Et ce fait interdit toute attitude despotique de son mari. La femme se doit d'abord à Dieu à qui l'homme lui-même a l'obligation de se soumettre. Cette soumission de la femme chrétienne à Dieu, puis à son mari, doit lui dicter un certain comportement, notamment à propos de l'enseignement dans l'Église, 1 Timothée 2h12. Pour Jacques, la manifestation essentielle de notre crainte de Dieu consiste à savoir nous taire, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion, crainte, de cet homme est vaine. Jacques 1h26, il n'y a donc pas que les femmes qui doivent apprendre le silence en certaines circonstances, tous ont cette responsabilité, Conférin Timothée 2h12, 1 Corinthiens 14h35. Jacques dit aussi que la crainte de l'Éternel consiste à prendre soin des veuves et des orphelins dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde, Jacques 1h27. Voilà encore un aspect du culte qui est d'abord, et avant tout, une chose personnelle. En effet, comme nous l'avons déjà dit, le vrai culte met en question mes rapports avec autrui. Oui, il y a une religion, treskéa, pure et sans tâche, elle consiste aussi à ne point faire de distinction de personne, à parler et à agir en hommes qui doivent être jugés selon une loi de liberté car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Jacques 2, 1 à 13. 1, 22, religion, ou culte, dépourvue de miséricorde sera une religion jugée sans miséricorde lorsque Dieu la jugera, confère Matthieu 7, 1, 2. Pour l'épistolier aux Hébreux, nous manifestons notre vénération pour Dieu lorsque nous confessons son nom et lorsque nous pratiquons la bienfaisance, Hébreux 13h15, confère Philippiens 4h18. Dans ce texte d'Hébreux, la louange est un véritable sacrifice, ou offrande. Dans l'Écriture, le mot louange a plusieurs significations. En hébreu, ce peut être la confession du péché Yada, la bénédiction Barak, la louange Halal, la glorification Shabash. Dans l'Épître aux Hébreux, nous apprenons que la louange est d'abord le fruit de lèvres qui confessent le nom du Seigneur. En effet, ce qui sort de la bouche de l'homme est la véritable expression de ce qui réside dans son cœur, Marc 7h17-22, Romains 10h10-11, Éphésiens 5h19. L'Église primitive est décrite comme louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple, Actes 2h47. La louange glorifie Dieu seul, tandis que les païens glorifient Dieu pour sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te confesserai parmi les nations, et je chanterai la gloire de ton nom, Romains 15, 9, une exhortation de Paul aux Romains souligne la place de la louange comme démonstration d'unité, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Romains 15, 6, les disciples, après le départ de Jésus, étaient continuellement dans le temple louant et bénissant Dieu, Luc 24h53. Les chrétiens doivent aussi avoir cette habitude, instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres, en toute sagesse, par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels, sous l'inspiration de la grâce, chantez à Dieu de tout votre cœur, Colossiens 3h16, 23.